rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu la semaine dernière qu'Alexandra était rassurée de pouvoir disposer bientôt d'une somme d'argent nécessaire à sa future grande expédition. Mais pour atteindre le but qu'elle s'est fixé, elle devra effectuer cette grande traversée de 1500 km avant de rejoindre Lhasa. En attendant, elle a connaissance de terribles épidémies, mais aussi d'un tremblement de terre, et la route sera longue. Le 29 octobre 1920, Alexandra est donc toujours à Koumboum, et elle écrit ceci à Philippe. « Je ne crois pas, cependant, à cause du retard venant de la banque à m'aviser de ton envoi, que je pourrai partir avant la fin de février. Il y a du reste une terrible épidémie de choléra et de typhus. » À Changtou, il meurt 500 personnes par jour du choléra, alors qu'il y a 15 jours, on n'en comptait que 200. À Sinine, c'est le typhus qui fait des ravages. Le brigandage a repris de plus belle sur la route. Lorsque je l'ai parcouru en venant de Pékin jusqu'ici, j'ai déjà connu tous les plaisirs réservés aux voyageurs à travers un pays en proie à la guerre civile et infesté de voleurs de grands chemins. 6 provinces sur les 18 que compte la Chine, propres, sont réduites à la famine. Les gens s'entretuent pour se voler l'écorce d'arbres qu'ils mangent. Il y a des siècles que calamité pareille n'a pas été enregistrée. Cela signifie que les affamés qui auront quelque force vont se transformer en brigands. On ne sait de quel côté se mouvoir. Des bandes russes sont descendues sur la Mongolie et y pratiquent des razzias sur une vaste échelle. L'époque est charmante pour voyager. Elle promet merveille aux amateurs d'émotions fortes. Et je n'en suis pas, ou je n'en suis plus. On se blase là-dessus, comme sur toute autre chose. Cela m'a beaucoup amusé il y a quelques années, au Tibet, les nuits où l'on demeurait toujours aux écoutes, toujours craignant une attaque de voleurs. Maintenant, je le confesse, une fois dans ma tente la nuit venue, j'aime dormir. 11 janvier 1921, toujours à Koumboum. Nous avons eu un tremblement de terre sérieux. Il y a une quinzaine de jours, je n'ai jamais ressenti de pareil. Il a duré 5 grosses minutes. Je crois que je t'en ai parlé dans une lettre précédente. J'ai dû prendre ma lampe en main pour l'empêcher de tomber de la table. Ma maisonnette dansait littéralement. Et après, j'ai eu des nausées, tout comme si j'avais été en mer. La secousse, toute forte qu'elle ait été, a été bénigne à Koumboum, mais au sud-est de la province, des villes entières ont été détruites. Il y a des milliers de morts. Certains villages ont disparu dans le sol. On ne voit plus qu'un vaste trou à leur place. Dans un certain endroit, un vénérable marabout, considéré comme un saint, était dans la mosquée lorsque la terre s'est littéralement fendue. Et le pauvre homme, avec une trentaine de fidèles, a été englouti avec des débris de l'édifice. Les Chinois sont très effrayés. Le général Sinine a fait distribuer de larges aumônes avec l'espoir superstitieux de se protéger par sa charité. Les missionnaires anglais annoncent plus que jamais l'imminent retour du Christ. The Lord Jesus may come. « Came any day », m'écrit l'un d'eux. Je ne sais si tu saisis bien le vrai sens de « any day ». Cela signifie « sans délai, demain, après-demain ». Plus les calamités s'accumulent, plus ces bonnes gens se réjouissent parce qu'il est écrit que tous les maux fondront sur l'humanité avant l'apparition du Christ et ils saluent avec joie ces signes précurseurs. Les fables bouddhistes sont absurdes comme toutes les fables, mais elles disent que l'apparition des Bouddhas est précédée de signes heureux. Le temps est agréable. Tous les arbres fleurissent et portent en même temps des fruits excellents. Les récoltes sont superbes. Toutes les femmes enceintes mettent au monde sans douleur des enfants superbes. Il en est de même pour les femelles des animaux. Tous les pauvres sont alors enrichis. Il n'est personne qui souffre de froid ou de la faim. Ceux qui haïssent voient leur haine changer en amitié. Père, mère, enfant, époux, amis s'aiment plus tendrement que jamais. Tous les étangs en guerre font la paix. La prospérité règne partout. Les habitants des régions infernales cessent de souffrir. C'est enfantin peut-être, mais d'une imagination gracieuse, on ne peut le nier. Et vaut mieux que les descriptions d'horreur, de carnage et de souffrance où se complaisent les chrétiens. Que t'en semble ? Enfin, les goûts sont divers. Comme elle l'avait prévu, Alexandra quitte Donkoumbo le 5 février 1921. Il y a donc un siècle de cela. Par une belle journée ensoleillée, un de ces jours où le ciel est bleu et la terre est jaune, comme disent les Chinois, elle l'écrit Alexandra. Partie pour une grande aventure. En mars, Alexandra arrive à Lanzhou, on dit aujourd'hui Lanzhou. La fondation de la ville date de la dynastie Han, il y a plus de 2000 ans. Elle était surnommée la ville d'or et à l'époque où elle se trouvait sur la route de la soie. Alexandra y est reconnue et elle est donc invitée à 4 dîners et 2 thés, notamment un grand dîner par le commissaire des postes qui tenait à flatter une Française. En mars 1921, elle écrit « Mon voyage, s'il devait se continuer à la vitesse actuelle, battrait sans nul doute le record de lenteur des pérégrinations méditerranéennes d'Ulysse. » Effectivement, Alexandra a toujours des problèmes d'argent, là, cet argent que lui a envoyé Philippe, mais qui n'est pas arrivé à temps. Et de plus, dès le départ, Afour est tombé malade avec d'affreuses névralgies dans la tête et les oreilles. Alexandra écrit « Je sais ce que c'est pour en avoir parfois souffert, mais cela se compliquait chez lui d'une température de 40 degrés. Je lui administrais ce qui me paraissait le mieux approprié dans les médecines mirifiques et ruineuses que les sœurs de l'hôpital français m'ont expédiées. Avec un grand courage, il s'est levé le lendemain et s'est hissé sur son cheval. Mais vers la fin de l'étape, on devait en hâte l'en descendre et il s'affaissait sur le bord de la route. Au village voisin, pas d'auberge. Une sorte de muezzine de la mosquée nous offre sa chambre et s'en va dormir avec sa femme dans la cuisine. Mes hommes couchent sur la paille à l'écurie et j'installe à four, comme je peux, dans la chambrette, en m'y emménageant moi-même un coin. Il s'agite, gémit toute la nuit. Je lui fais prendre encore quelques médicaments et le matin, il déclare qu'il veut partir. Depuis lors, il va mieux, bien que ses nuits soient encore fiévreuses. Moi, depuis mon arrivée à Lanzhou, je dors à peine. J'ai la fièvre toutes les nuits et ces étranges fourmillements dans les jambes que tu as pu éprouver autrefois. Prennent la route. On s'élève soudain de 1500 mètres, on redescend brusquement de 1000 mètres, on remonte de 1200 mètres, et ainsi se passe la journée. Je doute que l'exercice convienne au cœur et aux poumons faibles, mais il ne me nuit pas. Nous avons eu à franchir quelques kilomètres, une trentaine, à travers des gorges rocheuses que l'on dit infestées de brigands. Un certain nombre de passants y ont été détroussés et quelque peu lardés de coups de sabre il y a peu de temps. J'avais ordonné ce que j'appelle la tenue de guerre. Les hommes revêtent des oripeaux qui rappellent ceux des soldats. On met des cartouches dans les fusils et les revolvers et généralement je pars devant, à pied, mal vêtue. Une pauvre vieille qui chemine et ne tente pas les larrons. Si je voyais quelque chose de suspect, je le signalais aux autres qui escortent les bagages pour qu'ils soient prêts. Mais cette fois encore, tout s'est bien passé et nous avons pu tranquillement jouir du paysage, un chaos de montagnes rouges, de rocs éboulés extrêmement pittoresques. Le septième jour après notre départ de Lancho, nous sommes arrivés à Ojo, le cœur du pays musulman du Kansu. La petite ville s'élève parmi d'immenses champs bien irrigués, dans une vaste vallée arrosée d'un beau cours d'eau. Cela doit être un petit Éden l'été, quand les arbres sont couverts de feuilles et les champs verdoyants. C'est de là qu'est parti le signal de la révolte qui, il y a 27 ans, a mis le Kansu à feu et à sang. Pour l'instant, c'est un orage qui couve. Sensible comme toujours par les paysages qui l'environnent, Alexandra les décrit à Philippe. Des vallées étroites parcourues par de claires rivières aux eaux vertes, ou du moins qui paraissent telles, et des torrents bondissant parmi les rocs éboulés. La contrée a dû être autrefois une vaste forêt, des pentes de montagnes sont encore couvertes de beaux pins. Mais les sauvages qui vivent là coupent avec acharnement, sans jamais reboiser, et la plus grande partie des montagnes est maintenant nue, prête pour les éboulements. On parcourt des centaines de kilomètres au milieu de cette dévastation. Les gens d'Amdo sont des Tibétains, mais de ceux que les habitants des provinces centrales appellent « hommes des extrémités », ce qui a le sens, de même qu'en sanskrit, de non-civilisés, de sauvages. De fait, nus dans leur peau de mouton crasseuse, hommes et femmes ont beaucoup du sauvage quand on les examine de près. De loin, l'effet est différent. La crasse sur la peau du vêtement lui donne une chaude patine bronzée qui joue le velours. Sur leur houppelande, qu'elles portent très longue, rasant la terre, les femmes cousent des ornements de coton de couleurs vives, rouge, vert, bleu cru, et suspendent des écharpes de même couleur à leur ceinture. Toutes portent des chapeaux, les uns pointus, les autres ronds, en forme de bourrelet, de fourrure de renard, parfois simplement d'agneau. À les voir ainsi s'occuper dans les champs, on a l'impression d'une étrange réunion de châtelaines du Moyen-Âge, attelées à des charrues primitives ou défonçant la terre pour les semailles. Les maris des belles dames travaillent aussi, mais en moins grand nombre. Une partie d'entre eux bat le pays en quête de voyageurs à détrousser, tandis que l'épouse veille sur la propriété familiale. Mœurs naïves, touchante ingénuité. Puis les jours se succèdent, et chaque matin, il faut bien repartir. La route qui a été mauvaise hier est pire aujourd'hui, étroite, encombrée de blocs de rochers, tantôt grimpant à pic, tantôt descendant d'eux-mêmes, surplombant la rivière de très haut, établie sur quelques mauvais morceaux de bois calés parmi les rochers. Il y a de nombreux ponts à traverser, et les ponts de ce pays sont d'un genre dont la construction ne s'apprend pas à l'école centrale. Deux ou trois ou plusieurs arbres assez longs pour traverser la rivière, et installé sur ceci un tablier d'un amas de planches et de balivaux. Quand plusieurs animaux s'engagent sur cet ouvrage d'art, entre guillemets, le tablier se met à onduler comme les toiles qui, au théâtre, simulent l'océan. Il est amusant de voir les bêtes naviguer entre ces vagues quand elles ne vous appartiennent pas. Mais si l'on en est propriétaire, la joie est moindre, mêlée qu'elle est de l'inquiétude que l'on ressent de les voir, avec leur fardeau, être finalement balancés dans le torrent. quand tout s'est bien passé, l'on peut s'offrir le plaisir de cette traversée et imaginer qu'on est à quelque foire sur un plancher mouvant ou autre machinerie de ce genre. Il n'est de route, si difficile soit-elle, qui n'ait une fin. Nous sommes bien arrivés à Labrang. Labrang, alors c'est un des six grands monastères de l'école Gelugpa, du bouddhisme tibétain, dont le Dalai Lama et le Panchen Lama sont les autorités spirituelles. Celui de Labrang est celui qui accueille le plus grand nombre de moines en dehors de la région autonome du Tibet. Et donc, le lendemain de son arrivée, Alexandra visite le grand monastère et rencontre le jeune grand lama. C'est un bébé de 6 ans qui a déjà appris la façon de s'asseoir d'un air grave et de distribuer des bouts de soie de couleur à ses visiteurs suivant la coutume tibétaine. J'ai pris le thé avec ses parents, des gens de Kham, qui n'est pas très loin d'Hanoï. La mère est une grande femme, robuste, riante, avec une figure ronde, on dirait une napolitaine. Le père est un géant. Avec des façons assurées, il se meut au milieu de son luxe nouvellement acquis. Il paraît intelligent et parle avec aisance des questions de politique locale. Qu'était-il avant que son gamin eût été reconnu comme étant la réincarnation du défunt grand lama de Labrang ? Il a l'air qu'il a. Et au pays d'où il vient, on peut, sans grand risque de se tromper, penser qu'il devrait brigander si on part les routes et a plus d'un cadavre sur la conscience. Mais le voici devenu grand seigneur, et tant que son fils vivra, lui et sa famille demeureront dans un palais. Mais là aussi, Alexandra connaît du monde et elle est invitée à dîner. Très grand dîner! Comprenant un nombre incalculable de plats, on commence par du thé et du pain sec, suivi de riz sucré arrosé de beurre. Puis arrivent diverses sortes de hors d'œuvre, des crevettes, des algues marines, du vermicelle de farine de pois, malheureusement assaisonné de porc qui lui donne un goût très désagréable. Et la série continue. Il y a de la belle vaisselle chinoise, des tasses d'argent artistiquement ciselées. Les baguettes remplaçant nos couverts sont en ivoire. Mon hôte est fort riche. Je l'ai connu proscrit par les autorités de Labrang. Il est rentré sur les pas des soldats qui incendiaient les monastères du pays, ayant pris prétexte de sa querelle pour piller partout dans la région. Avait-il le bon droit pour lui? Qui peut le savoir? Ce n'est d'ailleurs pas mon affaire. J'ai été aussi chez les Nakpa. C'est des hommes aux longues chevelures embroussaillées qui sont les prêtres de l'ancien culte Bon, mêlés aujourd'hui de quelques notions bouddhistes. En général, ce sont des gens aimables et ceux que j'ai vus ici ne font pas exception à la règle. Je vais très bien, mais tant que je chevauche ou que je marche, cela va à peu près. Mais dès que je m'arrête, rhumatisme et, chose singulière, un retour de mon ancienne neurasthénie m'assaille. Verrai-je le bout du voyage projeté? Mais ils ne vont pas, pour autant, en continuer leur périple. Thank you. maintenant en avril 1921. Alexandra raconte qu'elle se vit dans l'obligation de travailler. J'entends de bénir tout le village qui vient défiler, de nouer des rubans en soufflant dessus pour assurer la longévité des gens. Je fus aussi priée de bénir de l'orge que les paysans se partagèrent, d'exorciser la maison où j'étais pour en expulser les démons qui pouvaient y loger, et comme bouquet, de déclarer où renaîtrait un vieillard mort 2 jours auparavant. On se fait à tout. J'arrive à accomplir ces exercices variés sans rire, mais ils me peinent. Mais à Four, qui cultive un genre à lui de scepticisme, hausse les épaules et me dit, lorsque les bonnes gens se présentent, « Bah, mais soufflez donc sur le dos de ce rhumatisant ou dans l'oreille de ce sourd, ils ne s'en porteront pas plus mal après et vous leur ferez grand plaisir. » Et puis, nous sommes en voyage. Avons-nous, oui ou non, décidé de jouer les lamas? Si oui, il faut le faire complètement, ou nous éveillerons les soupçons des gens qui nous suspecteront d'être des intrus, ce que nous ne sommes pas, puisqu'après tout, nous sommes bien de vrais lamas, seulement des lamas d'un ordre plus haut que ceux que ces pauvres ignorants fréquentent. Nous sommes en mai 1921. Et Alexandra continue d'écrire. Nous comptions nous ravitailler à 6 coups. Mais n'y avons rien trouvé qu'un peu de farine. De là, nous avons gagné Nanping, à travers une région habitée par des gens de race tibétaine. Plusieurs années de mauvaises récoltes, les razzias opérées par des brigands divers, les contributions levées par les fonctionnaires ont mis le pays à sec. Rien à acheter, ni pour les bêtes, ni pour les gens. Nous sommes réduits à la farine, et il ne nous en reste même plus. Je dois manger du mouton séché au soleil que j'ai emporté pour les hommes en cas d'extrémité de ce genre, ce qui me change désagréablement du régime végétarien. Je digère bien cette nourriture de sauvage, mais elle me cause une éruption du genre urticaire qui me tourmente fortement. Je récolte de temps en temps des pissenlits sauvages, mais il n'y en a pas partout. Le pays est pittoresque. Je continue à bénir gens et choses et à prédire l'avenir et me procure ainsi quelques œufs et autres douceurs rustiques. La route est meilleure pendant quelques jours. Nous traversons des bois pleins d'arbres en fleurs, mais on n'y rencontre pas 100 mètres de terrain de niveau. On monte, on descend, on change d'altitude 3 ou 4 fois par jour. Un soir, à la tombée de la nuit, nous arrivons dans un petit village nommé Gomi. Un de ses habitants, rencontré en route et qui nous a devancés, nous a invités à loger chez lui. Nous nous informons donc de sa demeure, mais à peine arrivés, les hommes qui me précèdent avec les bagages se trouvent en présence d'un individu envoyé par le petit chef de la localité qui défend aux villageois de nous héberger et de nous vendre quoi que ce soit. Afour et moi suivions en arrière, à pied, et j'arrive lorsque la scène est déjà dans son vif. Je fends la foule et je vois devant mes 3 hommes et les mules un énergumène qui vocifère, les yeux hors de la tête, gesticulant de façon menaçante. Les gens autour ne disent encore rien, ne sachant pas trop quel parti prendre, mais ces situations sont dangereuses et il faut se hâter d'en sortir sous peine de les voir tourner vilainement. Je regarde vite, compte à peu près la foule, une 50aine d'hommes sans arbres. Nous tiendrons avec celles que nous avons si les choses doivent tourner au pire. Le domestique de Lhassa me demande laconiquement « Faut-il taper ?» Mais naturellement, il le faut, sous peine de recevoir les orions nous-mêmes. Je réponds en tibétain, quelque chose qui peut se traduire par « vas-y et pan ». L'orateur furibond reçoit un coup de poing solide au creux de l'estomac, une gifle à étourdir un bœuf suit sans retard, appliquée par un de mes jeunes serviteurs, tandis que l'autre, par derrière, laboure les côtes du personnage avec son gourdin. Celui-ci s'affaisse, et la foule recule. L'effet produit, on ne se frottera pas à nous. Nous avions une place libre et je dis, placez les fusils et les revolvers en évidence, plantez les tentes et dites que personne ne s'avise de venir rôder autour pendant la nuit, car nous tirerons immédiatement. Et le vide se fait. Une vieille femme, bravant les ordres du chef, vient nous apporter une brassée de bois pour allumer du feu. Un intermédiaire officieux, expédié par le chef, vient raconter à Afour que ce dernier a 150 soldats au col que nous devons franchir le lendemain et que nul ne peut passer sans être muni d'une lettre portant son propre sceau. Il dit aussi que le chef inspectera tous nos bagages le lendemain matin, et puis plein d'autres choses. J'entends tout de ma tante et comprends la signification de l'aventure. Le chef nous prend pour d'authentiques Tibétains, riches marchands, ou lamas, et veut extirper de nous un bon profit. Il s'ingénie pour cela à nous faire peur. Alors je sors et dis sèchement au bonhomme de s'en aller, que son maître ne verra pas nos bagages, que je me moque de ses soldats, et lui enverrai ma carte, afin qu'il sache qui je suis. J'envoie donc un des jeunes gens porteur de nos cartes, la mienne et celle d'Afour, car celui-ci a des papiers en règle, délivrés par Pékin, mentionnant son titre de lama, décerné par les autorités que cela concerne, c'est-à-dire un ministre chinois. Peu après, une ambassade arrive, apportant une écharpe de soie en guise de compliment, du grain, de la paille de quoi nourrir amplement nos mules pendant 2 jours et de la farine pour nous. Le chef s'excuse aussi, prétendant qu'il ne pouvait savoir qui nous étions. Cette procession précédée de lanternes, car il fait nuit, doit produire un effet sur les villageois. Je dis, puisque le chef a des soldats, j'en veux 4 comme escorte jusqu'au-delà du col. Donc le lendemain, en guise de soldats, 4 villageois étaient réquisitionnés pour nous servir de guide et conduire les mules, le chemin étant très difficile. Inutile de dire qu'il n'y avait pas un seul soldat dans la montagne. Alexandra, Afour et les hommes qui les accompagnent continuent donc ainsi leur chemin dans les montagnes. On monte difficilement et dans les descentes, il faut conserver son équilibre et cela est périlleux. Cette route est longue, 20-25 km par jour, encombrée de pierres, dans la boue et à travers un maquis épineux. Tous ces obstacles leur infligent des douleurs. Pourtant, l'obstinée Alexandra n'en a pas fini. Et d'autres péripéties, des douleurs, des peurs, la faim, tout cela qui l'attend durant ces longs mois pour arriver au but qu'elle s'est fixé, arriver à Lhasa. À la semaine prochaine pour d'autres récits de l'aventure d'Alexandra David-Nel.